Feel like you're stuck in career limbo? Clock in, clock out, repeat. No growth, no new opportunities. It's time to break out and break into tech. With CBT Nuggets, you can start building the IT skills that companies are hiring for right now. We make training fast, simple, and practical. From networking to cybersecurity, you'll get short, easy-to-watch videos and hands-on virtual labs so you can build real-world skills without expensive gear or complicated setups. For just $59 a month, you get unlimited access to our full training library. That includes certifications, skill-based learning, and practice exams, a $100 value included free. Learn anytime, anywhere, and get job ready on your terms. Thousands have used CBT Nuggets to launch new careers, and you can too. Right now, CBT Nuggets is offering a free trial. Easily find the training you need and test it out with no commitment. Start your 7-day free trial now at cbtnuggets.com. Don't wait. A better job is just a few clicks away.
Allô, bienvenue au 100e épisode de Crime de Bean, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré!
Ici Hélène.
Et Mélanie, un peu énervé.
Oui! Yeah. 100 épisodes, gang! Ouais. C'est fou raide.
Sans compter les Patreons,
Compter les Patreons, qu'on est comme à 30, 31, je pense.
Merci tellement d'être là pour nous et de nous permettre de faire ça.
Tellement, parce qu'on s'entend que si vous n'étiez pas là à nous écouter, on ferait plus ça, là.
Non, on ferait pas ça.
C'est 100% grâce à vous. Okay, merci.
Je suis comme un peu émue.
Moi aussi. Merci de votre amour, merci. De votre écoute. Voilà, merci d'être là.
Yeah.
Et d'ailleurs, pour le 100e épisode, écoute, je voulais vous mettre la première fois qu'on a enregistré pour Crime de Bean. Le 28 août 2020, on était un peu chaude et tellement énervée.
On était stressée.
Ouais, et stressée. Que quand je suis arrivée pour faire le montage du premier épisode, j'ai fait « je peux pas mettre cette intro-là, on est dégueulasse à écouter. »
Genre énervante.
Ah ouais, vraiment gossante. Fait quand on s'était revus, on avait réenregistré l'intro. Puis là, pour le 100e épisode, je voulais vous trouver comme l'original intro trop énervée, mais je l'ai pas gardé. Oh. Je suis vraiment triste. J'aurais voulu vous mettre ça, là, on était dégueulasse.
Ouais, j'avais bu je m'étais calé un gin tonic, je pense, en premier, parce que j'étais trop stressée. Je m'en venais en Bixi, puis je me calais un gin tonic. Écoute, c'est pour ça que quand les gens commencent à écouter nos épisodes, je dis toujours, commence pas par les premiers.
Non.
Ouais. Tu vas nous aider.
Ouais. Écoute les premiers une fois que tu nous aimes déjà, fait que tu vas nous pardonner nos débuts.
Bon, Hélène.
Oui?
Un peu de sérieux.
OK.
On a Alexandre qui nous posait une question hier par courriel via le site web et j'ai dit, je vais poser la question à Hélène parce que, voilà. Il dit, comment fonctionne un strip karaoké? Il dit pas que je veux y participer ou quoi que ce soit, mais j'en parlais hier avec ma femme, puis on se demandait comment c'est possible de performer dans l'un ou dans l'autre en même temps.
Voici la question. Oui, c'est incroyable pour vrai. On est allé là, je pense, en fait, de 28 ans. C'était au Café Cléopâtre, mais genre pas dans le bar de danseuse, comme au deuxième étage, j'ai comme une autre petite salle. Puis je sais pas si ça existe encore. Si vous le savez, dites-le moi, mais c'était une fois par mois, c'était genre le premier vendredi ou samedi du mois. Puis dans le fond, tu vas chanter une toune de karaoké, puis si ça te tente, tu peux enlever des morceaux. Mm. Mais pour vrai, le mood était tellement le fun puis respectueux. Genre, il y en a qui arrivaient, qui faisaient juste enlever leur veste, puis tout le monde, genre, criait puis était énervé. Après ça, l'autre d'après, après 30 secondes, il était nu-fesse.
Oui.
Tout le monde était genre, waouh, incroyable. Fait que c'était vraiment, tu y vas comme tu veux, comme tu le sens, pas de pression. C'était genre...
La majorité des gens étaient comme en sous-vêtements, mettons.
Ouais. C'est comme... ça. Les complètement nus étaient quand même. Ben, il y en a quand même.
On en a vu dans la soirée, ouais.
Mais pour vrai, c'était tellement une belle expérience.
C'était de bon goût.
Puis j'avais vraiment pensé à ma toune d'avance, j'avais chanté Underneath Your Clothes.
Oh my God. Je me rappelais pas de ça. Qu'est-ce que c'était ça que t'avais chanté? Ben, j'étais là, mais je me rappelle moyen, on dirait.
Voilà.
Et non, j'avais pas été game de le faire, si vous vous demandez. Pas willing.
Fait que voilà, le strip karaoké. J'espère que ça répond à ta question, Alexandre.
J'ai dit, t'écouteras l'épisode, je vais demander à Hélène en onde. Ça va être moins compliqué. J'ai aussi une rectification à faire.
Oui, vas-y.
L'épisode de Monica la mitraille.
Ouais.
son nom en anglais, c'est Machine Gun Molly.
Oui.
Moi, à un moment donné, j'ai dit Machine Gun Kelly.
Oui, je sais, il y a plein de monde qui nous ont écrit ça. Puis je l'avais noté quand tu l'as dit, puis je m'étais dit que je vais la corriger. Mais j'attendais,
tu m'as pas corrigé.
Mais j'attendais que tu finisses ta phrase, puis après ça, j'oublie.
Ben écoute, ça trahit un peu mon style musical, mais bon. Moi, je l'aime, Machine Gun Kelly. À part quand elle est trompée Megan Fox, mais en tout cas pas. Enceinte.
Oh boy.
Oh ouais. Fait que c'est ça, désolée. C'est Machine Gun Molly et non Machine Gun Kelly.
Ouais.
Désolée. Voilà.
Moi, j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Que tu vas aimer. J'ai des nouvelles du vieux bébé.
Non. Non.
Attends. Il y a Léane qui nous a écrit.
Attends, il faudrait mettre en contexte pour ceux qui ne se rappellent pas. J'avais raconté l'histoire de quelqu'un qui avait qui marchait sur la route et qui avait une limousine qui était arrêtée. Puis à l'intérieur, il y avait un homme et un deuxième homme déguisé en bébé.
Ouais.
Puis il voulait dire, il disait genre, viens avoir du fun avec nous. Puis la fille était comme, fuck non. Fait que bref, elle n'est pas embarquée dans la limousine. Ouais. T'as des nouvelles de ça?
J'ai des nouvelles de ça. Alors, Léane dit, coucou, je suis en train d'écouter votre podcast sur le massacre du Shell Lake. Au début, vous avez expliqué l'histoire de Noémie à Saint-Lambert de Lauzon. J'habite à Saint-Lambert et j'ai fait écouter cette partie à mon père, qui habite là depuis qu'il est né. Bref, il m'a dit que ça devait probablement être un homme qui s'appelle Jean-Marie Roy. Mon père m'a raconté qu'il était propriétaire d'une limousine et qu'il aimait se déguiser.
Hein?
Et pas juste à l'Halloween. Par exemple, il s'habillait en cow-boy dans la vie de tous les jours. Mais comme le gros kit avec la ceinture de fusil, comme dans les vieux films western. Sauf qu'à la place du fusil, il mettait une rose. Aussi, il m'a dit qu'il aimait beaucoup s'habiller en femme. À l'époque, ce n'était pas très commun, mettons. Je ne sais pas si c'était vraiment lui, mais ça ferait du sens. C'est sûr, c'est lui.
C'est sûr que oui. Mais c'est quoi le trip? C'est bien drôle.
C'est quoi le trip?
Moi qui étais là dans les fétichistes, puis les...
Juste un gars qui aimait se déguiser.
OK.
Puis qui avait une limousine.
Un vieux bébé. Mais ouais. Pourquoi, tu sais, t'accostes les filles sur le bord de la rue, puis tu dis, tu veux-tu avoir du fun? Non. Même déguisé en cow-boy avec une fleur.
Et voilà.
Ah, je suis donc bien contente qu'on ait une
On a eu la réponse.
Noémie, tu nous écriras si tu t'entends.
Ouais, c'est ça, Noémie qui...
Ah, c'est trop drôle. Bon, passons aux choses sérieuses.
Oui.
Qu'est-ce que tu nous racontes, Hélène, aujourd'hui?
Écoute, je voulais faire un trigger warning. Écoutez pas ça si vous êtes enceinte.
Oh non!
Mais si...
Oh non!
Mais...
On a un public en plus qui... Sa blonde est genre 36 semaines enceinte.
Mais en fait, c'est surtout...
Il dit moi, je pense. Non, il est pas enceinte.
Mais c'est surtout une histoire... Comme je les aime, une histoire de mythomane. Puis ça, que c'est comme mon petit dada, là. Moi, ça me fait comme capoter des histoires de mythomane qui vont comme trop loin, là.
Ben, parce que t'en as vécu.
Ouais, parce que j'en ai vécu une de proche. Fait que c'est comme, c'est ça. C'est surtout pour ça que j'ai choisi cette histoire-là.
Mais tu piques ma curiosité. Donc, je l'ai probablement celle de tout le monde qui écoute.
Ouais. Donc, je l'ai surnommée le déni.
OK.
Alors, mes sources, ben, un tueur si proche.
Classique.
Des articles de Radio-Canada, TVA Nouvelles, Journal de Montréal, Journal de Québec. Alors, je t'amène à Limoilou, donc à Québec, le lundi 14 juillet 2008.
Okay.
Il est 16 heures. Une infirmière de la clinique médicale Giffard appelle le 911 à propos d'une patiente qu'elle a vue deux jours plus tôt et qui était sur le point d'accoucher. Elle l'avait référée à un hôpital, mais la patiente ne s'est jamais présentée. Mention spéciale à cette infirmière qui était crissement à son affaire.
OK.
Puis tu vas comprendre pourquoi tantôt. Les policiers se rendent alors à l'adresse indiquée au dossier de la future mère. Les policiers débarquent dans une maison unifamiliale de l'ancienne Lorette, occupée par un couple dans la cinquantaine, qui sont très surpris de voir débarquer la police. Et les policiers leur expliquent qu'ils recherchent une certaine Marie-Ève Bastille, qui serait sur le point d'accoucher. Le couple leur dit « Ben, Marie-Ève, c'est notre fille. » Mais ils ignoraient qu'elle était enceinte. Ils sont sous le choc. Mais il leur donne l'adresse de l'appartement où réside Marie-Ève dans Limoilou. Les policiers se rendent alors à cette adresse. C'est un appartement dans un immeuble de logement de Limoilou et une jeune femme répond à la porte et s'identifie comme étant la coloc de Marie-Ève Bastille. Les policiers lui demandent une preuve d'identité. Elle ramasse le portefeuille qui est sur la table du salon, puis là, le policier regarde la carte, puis il voit bien que c'est pas la même femme sur la photo que devant lui.
OK.
Fait que là... Il dit, ouais, je pense que c'est pas toi. Fait que là, Ben, se voyant coincée, elle avoue que c'est bien elle, Marie-Ève Bastille. Elle dit avoir menti parce qu'elle était nerveuse. Elle leur dit qu'elle n'était pas enceinte puis qu'elle n'a pas accouché. Puis là, finalement, quelques minutes plus tard, elle change de version. Ah oui, ben oui, finalement, j'ai accouché quelques semaines plus tôt chez une amie.
Hein?
OK, mais tu sais, l'infirmière, elle l'a vue il y a deux jours puis elle était très enceinte. Fait que là, les policiers qui pensaient venir faire une petite visite de routine, ils commencent à trouver ça vraiment weird. Et là, à ce moment-là, Marie-Ève Roy, la coloc de Marie-Ève Bastille, débarque. Mais en fait, c'est pas juste sa coloc, c'est sa blonde.
C'est-tu elle qui est enceinte?
Non.
Ah ouais?
Non, non, pas plus enceinte. Puis là, vu qu'il y a deux Marie-Ève en couple, c'est quand même drôle.
Ouais.
Puis là, pour pas trop se mêler dans l'histoire, je vais appeler Bastille.
OK.
Puis Marie-Ève Roy.
OK.
Donc, Marie-Ève Roy, elle arrive chez elle, puis là, elle voit plein de police à l'extérieur avec OK, qu'est-ce qui se passe? Mais elle pense pas que c'est pour chez elle. Là. Elle pense pas que c'est son appart. Puis là, quand elle rentre dans l'appartement, ben la porte est comme entrouverte. Puis là, elle voit le policier dans le salon en train de parler à sa blonde. Fait que là, elle demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, Bastille, il fait comme une drôle de face. Puis le policier, il dit elle te le dira si ça lui tente.
OK.
Fait que là, les policiers veulent comme éviter que les deux femmes se parlent. Fait que là, ils envoient Marie-Ève Roy dans la chambre, puis ils gardent Bastille dans le salon. Puis pendant ce temps-là, il y a un ambulancier qui vérifie l'état de santé de Bastille. Et là, ben là, le petit check-up, ça la stresse. Fait que là, elle change encore d'histoire. Elle dit que finalement, elle a fait une fausse couche dans la nuit de samedi à dimanche. Fait que la nuit du 12 au 13 juillet. Là, on est le 14 juillet. Là, Marie-Ève Roy...
Ça n'a pas de sens.
Marie-Ève Roy, qui est dans la chambre, elle entend la conversation dans le salon. Puis là, elle entend Bastille dire « J'ai pas accouché ici, j'étais chez une amie. Vous trouverez pas le bébé qui est dans un endroit où vous pourrez pas le trouver. » Mais voyons donc, elle se dit, Marie-Ève Roy. Là, les policiers, ils se mettent à
fuir. C'était enceinte de qui, anyways?
Oui, c'est ça. On s'entend qu'elle est en couple avec une femme.
Ça marche pas.
Ça part mal. Fait que là, les policiers se mettent à fouiller l'appartement à la recherche d'un nouveau-né.
Hein?
Pendant ce temps-là, les parents de Bastille, ils appellent Marie-Ève Roy, puis ils disent à Marie-Ève que... Il dit à Marie-Ève Bastille que l'enfant, s'il n'y a pas de problème, on va l'aimer, on va l'accepter. Mais là, Marie-Ève Roy leur dit que leur fille, elle a fait une fausse couche la veille, puis qu'elle est en train de mentir aux policiers en leur disant que c'était pas ici. Fait que là, le père, il dit, OK, ben là, gars, toi, tu vas dire la vérité aux policiers, tu vas leur dire ce que tu sais, parce que sinon, tu vas être dans la merde aussi.
Je suis complètement perdue. Complètement perdue.
Fait que là, Marie-Ève Roy, elle raccroche. Puis là, elle commence à comprendre la gravité de la situation. Puis elle capote. Puis là, elle dit, OK, il faut que je raconte ce que je sais aux policiers. Fait que là, elle se retourne, puis là, elle fait signe à l'ambulancier qui est juste à côté d'elle, puis elle dit, viens-t'en, faut que je te dise de quoi. Fait que là, elle dit, moi, hier, j'ai sorti un sac de poubelle. Puis dans le sac de poubelle, en tout cas, elle dit, je l'ai mis dans le bac à l'extérieur de l'immeuble. S'il y a un bébé, il est là-dedans. Fait que là, tout de suite, l'ambulancier, il va vérifier l'information. Fait que l'ambulancier, il sort dehors, il trouve comme le gros bac de poubelle à l'extérieur. Puis là, à l'intérieur, il découvre le corps d'un nouveau-né, caché à l'intérieur de plusieurs sacs de poubelle. Fait que là, dès qu'il voit ça, il va le dire aux policiers, puis il leur dit aussi que moi, ma journée est terminée. Il faut que je rentre parce qu'il est complètement sous le choc.
Ben, voyons donc.
Fait que là, pendant ce temps-là, Marie-Ève Roy, elle commence à bouillonner de rage contre sa blonde parce qu'elle réalise que s'il y a un enfant mort dans les poubelles, ben, c'est vraiment grave. Et qu'en plus, elle l'a entraîné là-dedans.
Mais est-ce qu'elle savait qu'elle était enceinte à la base, sa blonde?
Non. Non.
OK, fait qu'il y a une grosse histoire de tromperie. Oh,
OK.
C'est quoi ça?
Fait que là, la nouvelle se répand vraiment vite dans le quartier, dans les Moiloux. Fait que là, il y a un petit attroupement de curieux qui se forme à côté de l'immeuble. Puis là, les policiers, ben, ils mettent une toile blanche pour cacher la scène. Puis là, les policiers qui doivent analyser la scène puis ouvrir les sacs de poubelle, c'est vraiment difficile. Fait que là, les deux policiers qui sont là, ils se sont regardés puis se sont dit, OK, faut y aller. Fait qu'il y a un des policiers qui prend le petit corps, puis qu'il le donne aux ambulanciers pour qu'ils le prennent en charge. Il est clair que le bébé est décédé depuis plusieurs heures et qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire. Il était emballé dans 4 sacs de plastique. Puis, il était toujours connecté au placenta. Fait que là, les policiers se posent alors une question terrible. Est-ce que le bébé était déjà mort quand il était placé dans le sac de poubelle? Puis quand ils posent la question à Bastille, ben elle a dit que oui, il était mort, ni il était mort à la naissance.
Et j'aime ça.
c'est pour ça que j'ai dit de ne pas l'écouter si vous êtes enceinte. Donc, les policiers se mettent à fouiller l'appartement pour trouver des indices pour prouver que l'enfant vient bien de cet appartement-là, pour faire le lien entre les deux. Donc, ils fouillent la salle de bain. Puis là, ils trouvent des serviettes hygiéniques de la même marque que d'autres serviettes hygiéniques trouvées dans la poubelle à l'extérieur, dans le même sac okay. que le corps. Puis, ils trouvent aussi un test de grossesse dans la poubelle de la salle de bain qui avait été jeté, mais sans avoir été utilisé. Mm. Puis, la salle de bain est comme incroyablement propre.
Mm.
Puis, selon les informations qu'ils ont, ben, ouais. l'accouchement aurait eu lieu dans la salle de bain. Fait que... Mais là, ils mettent le luminol.
Ouais.
Ça s'illumine. Fait que là, ils voient des traces de pas. Ils voient des traces de pas ensanglantées qui partent de la salle de bain, qui vont jusqu'à la poubelle de la cuisine. Puis ensuite, des traces de pas de la salle de bain vers la chambre à coucher qui vont du côté du lit où dormait Bastille. Fait que là, avec ces preuves-là, les policiers décident d'arrêter Bastille et de l'accuser d'infanticide. Marie-Ève Roy est considérée comme sa complice
mm-hmm.
pour s'être débarrassée du cadavre. Et Bastille est placée sous surveillance à l'hôpital là, parce que là, ben, elle a comme besoin de soins obstétriques parce qu'elle a accouché toute ouais. seule dans sa salle de bain. Donc là, une autre question que les policiers se posent, puis toi sûrement aussi.
J'ai tellement de questions, t'as même pas idée. Je les pose pas parce que je veux pas gâcher l'épisode, mais...
Comment ça se fait que personne de son entourage ne se soit inquiété du nouveau-né? Ben la réponse, c'est que personne de son entourage ne savait qu'elle était enceinte. Fait que là, je vais te parler un peu de Marie-Ève Bastille et de comment elle a pu cacher sa grossesse à tout le monde. Alors, Marie-Ève Bastille est née en 1985 à l'ancienne Lorette. Donc, en 2008, elle avait 22 ans. Ses parents sont assez aisés financièrement, ils sont très éduqués, elle est fille unique. Ses amis la décrivent comme une femme charmante, charismatique, joyeuse et souriante, toujours prête à rendre les autres heureux. C'était aussi une femme brillante qui performait bien à l'école. Au cégep, elle s'inscrit au BI en sciences. Malheureusement, elle échoue plusieurs cours lors de sa première session et elle décide de lâcher l'école. Et elle quitte aussi la maison familiale à 19 ans. Et en 2008, ça faisait 3 ans qu'elle était en couple avec Marie-Ève Roy. Les deux s'étaient rencontrés alors qu'elle travaillait dans le même dépanneur. Bastille était caissière, puis éventuellement était devenue gérante. C'était sa première relation homosexuelle. Puis, selon Marie-Ève Roy, c'était une belle relation, avec des hauts et des bas, mais en général, une belle relation. Puis, quelque chose qui était vraiment crève-cœur pour Marie-Ève Roy, c'est que Bastille, elle la présentait à ses parents comme sa coloc.
Ah.
Elle leur disait pas que c'était sa blonde. Puis, Marie-Ève Roy, elle aurait vraiment aimé ça leur dire. T'sais, elle a dit « Je m'entendais vraiment bien avec eux, puis je pense que ça aurait vraiment bien passé. » Mais, Marie-Ève Roy, dans son mensonge... Mais avec ses parents, elle vivait comme une autre vie. T'sais. Fait que même que à un moment donné, elle est partie en voyage à la Riviera Maya avec ses parents et un ami avec qui elle trompait sa blonde. Vous savez, sa blonde, elle savait même pas que le gars il partait en voyage avec la famille. Fait que c'est clairement pendant le voyage, elle a présenté le gars comme étant son chum, ouais. ses parents. Puis d'ailleurs, ça pourrait vraiment être lui le père de l'enfant parce que les dates fit.
OK.
Puis la pauvre Marie-Ève Roy va apprendre plus tard que Bastille, en fait, elle l'a trompé, pas juste avec lui, mais comme au moins avec 5-6 gars pendant qu'il était en relation. Puis ce 5-6, c'est ce qu'elle a pu confirmer.
OK.
Puis c'était comme, la plupart, c'était des amis, genre des gens qu'elle connaissait.
Ah. Oh.
Ouais. Bastille, elle adore les enfants. Même qu'elle avait déjà pensé... elle avait déjà pensé devenir pédiatre.
Non.
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 Son boss, il raconte qu'elle était venue chez lui une soirée, puis à ce moment-là, sa femme, à lui, était enceinte, puis Marie-Ève Bastille, elle avait passé la soirée à flatter le bedon de sa femme. Ben elle disait « Ah, mon Dieu, c'est donc bien beau, vous êtes donc bien chanceux. »
Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête?
Un peu too much, là.
Hein?
Puis son boss, il trouvait que Bastille était une vraiment bonne employée, mais il avait fini par remarquer que était vraiment manipulatrice puis qu'elle inventait bien des histoires puis que la part du monde la croyait, tu sais. Mais lui, il avait comme vu à travers ça un peu, là. Donc, la grossesse cachée. Fait que Bessie était bien enceinte, mais elle l'a dit à personne. Même si plusieurs personnes ont eu plusieurs doutes en cours de grossesse, tu sais, Marie-Ève Roy a dit que Bessie était comme devenue sédentaire, elle sortait plus beaucoup, elle bougeait moins, elle mangeait beaucoup. Ses parents, qui la voyaient un peu moins souvent, ils avaient remarqué qu'elle avait pris du poids. Puis, tu sais, pas juste du poids, là. Elle avait un bedon de femme enceinte. Fait qu'à un moment donné, Marie-Ève Roy, elle l'a confrontée là-dessus. En fait, elle l'a confrontée à plusieurs reprises. Là. Plusieurs reprises, elle lui a demandé « T'es-tu enceinte? » T'sais, tu penses pas que tu pourrais être enceinte? « Ah non, non, je t'assure. » Puis son excuse pour le bedon gonflé, elle disait qu'elle avait un fibrome.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire un fibrome utérin, une tumeur bénigne qui s'installe sur la paroi de l'utérus. Il peut créer des problèmes intestinaux et des gonflements.
Tumeur cancéreux?
Non, bénigne. Genre, apparemment que c'est quand même assez comme un fibrome utérin.
OK. Selon Wikipédia. Ça te fait comme ballonner, genre? Ouais. Gonflé? OK.
Ouais, c'était ça son excuse.
OK.
Mais là, vers mi-juin, donc à 2 mois avant la fin de son terme, ben, tu sais, son bedon, il était rendu comme,
ben oui,
comme une femme enceinte de 8 mois, là. Puis là, vu que c'était l'été, ben, j'imagine qu'elle pouvait plus le cacher sous des cotons ouatés. Puis, tu sais, l'hiver, c'est plus facile à cacher.
T'es-tu en train de me dire que le bébé, elle a accouché à terme?
Et là, c'est pas juste sa conjointe, là, mais tout le monde dans son entourage lui demande si elle est enceinte, parce que là, c'est comme...
Puis elle a dit non à chaque fois.
Elle continue à dire non. Puis quand on lui demande, ben ça la fâche, ça la rend triste. Puis là, elle dit, les gens, ils ont pas confiance en moi. Ben non, Chris, c'est normal en pleine face. Et... Fait que, tu sais, en plus, sa réaction, ça aide pas à la croire, là. C'est comme... Tout, comme bizarre.
Sa blonde qui dort avec elle, je veux dire, un bébé, ça donne des coups, là.
En plus?
Voyons donc.
Ça n'a pas de sens.
C'est okay. Vraiment farfelu, là.
Ouais.
OK.
La réalité dépasse la fiction. Puis là, à un moment donné, Marie-Ève Roy, elle lui demande de passer un test de grossesse. Elle est comme là. Puis ça, c'était une semaine avant l'accouchement.
Hein?
Puis le test que les policiers ont trouvé dans c'était la poubelle, ça. Ben en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pas pissé dessus.
Mm.
Elle a fait, regarde, il est négatif.
Mais de l'eau, genre?
Ouais, genre... Et là, finalement, le vendredi 11 juillet, Marie-Ève Roy, elle la met au pied du mur, puis elle dit, OK, là, même si c'est un fibrome, il faut aller voir un médecin parce que là, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, ben, elle accepte. Mais finalement, cette journée-là, elle choque parce qu'elle dit qu'elle est trop fatiguée.
Je suis brûlée.
Finalement, le samedi 12 juillet, elles se rendent toutes les deux à la clinique. Bastille voit une infirmière vers midi, mais elle refuse que Marie-Ève Roy vienne dans la salle avec elle. Donc, seule avec l'infirmière, elle lui raconte qu'elle a des maux de dos et des problèmes intestinaux. L'infirmière lui dit...
OK, ni même à l'infirmière.
Ouais, mais là, l'infirmière, elle répond, ben c'est vraiment normal à ce stade-là, la grossesse.
Ouais.
Fait que l'infirmière, elle dit que, ben t'es enceinte d'au moins 35 semaines. Puis le travail a déjà commencé. Genre, faut que t'ailles à l'hôpital parce que tu vas accoucher dans les prochaines, genre, 24-48 heures.
Genre, elle était dilatée, la fille, là.
Fait que l'infirmière, elle dit, tu dois te rendre directement à l'hôpital Saint-François d'Assise en obstétrique.
C'est là que je suis née.
Oh!
Tranche de vie.
Hein? Puis là, ben, si elle dit, je savais pas que j'étais enceinte, mais elle dit, oui, c'est bon, je vais me rendre à l'hôpital.
Ce qu'elle a pas fait.
Puis ça, c'est l'infirmière qui a vraiment fait sa job, puis qui a fait le suivi deux jours après. Ouais. Parce qu'on s'entend que sans cette infirmière-là, genre, personne n'aurait jamais trouvé le bébé.
C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire.
Fait qu'en sortant de la salle, Bastille a dit à sa blonde que l'infirmière va la rappeler lundi ou mardi pour lui donner un rendez-vous avec une gynécologue. Mais elle dit rien par rapport au fait qu'elle est enceinte puis qu'elle est sur le bord d'accoucher. Fait qu'elle se rend pas à l'hôpital.
Mais c'est un niveau... OK, je viens de catcher ton titre. C'est un niveau de déni incroyable. Parce que j'imagine qu'elle le croit qu'elle n'est pas enceinte.
Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête.
Il y a quelque chose.
Bien, rendu là, moi, je pense qu'elle sait. Puis qu'elle est juste tellement loin dans ses mensonges qu'elle n'est pas capable de d'avouer. Moi, je pense que c'est ça. Mais je t'en reparle.
OK.
Donc, tout va bien. Alors, les filles se disent, ah, mais on va pouvoir faire ce qu'on avait prévu faire aujourd'hui. On va aller voir le père de Marie-Ève Roy qui habite à Saint-Siméon, dans Charlevoix. Ça, c'est à 2 heures de route de Québec. La fille est en travail. Fait qu'il embarque dans l'auto. Puis dans l'auto, ben, Basté, elle a des contractions.
Ah oui.
Mais elle essaie de faire comme si de rien n'était. Genre... Fait que, genre, elle se tortille un peu, fait comme, ah, j'ai mal au dos, puis mais ben, genre, elle fait pas des bruits de femme qui a des contractions, là. Genre, elle fait juste comme, tu sais.
OK.
Fait qu'elle se rend à Charlevoix, chez le père de Marie-Ève Roy. Ils ont un bon petit souper sur la terrasse, comme si de rien n'était. À la fin de la soirée, là, Bastille a dit, ben, je suis vraiment fatiguée, OK, on va repartir vers Québec. Qu'elle a fait 4 heures de route en travail. Sans laisser rien paraître, là.
C'est sûr qu'elle souffrait le martyr. Oui. Là. Ça n'a pas de sens.
Donc là, elle revient à la maison, fume un petit joint pour se relaxer.
Hein?
Ouais. Bastille a dit qu'elle va aller se faire couler un bain vu qu'elle a encore mal dans le dos. Marie-Ève Roy, elle va lire un livre dans son lit. Puis elle finit comme à tomber endormie en lisant. Puis là, elle se réveille comme un petit peu, quelques temps après. Puis là, elle ferme sa lumière, elle met son livre sur le côté pour se coucher. Puis là, comme Bastille est toujours pas là, fait que là, elle demande comme, t'es-tu correct? T'sais, elle est dans la salle de bain. Puis là, réponse de la salle de bain, oui, oui, ça va. Genre, tu peux te coucher. Puis tu sais, voix vraiment normale qui laisse rien paraître que est en train d'accoucher. Fait que dans la nuit du 12 au 13 juillet, pendant des heures, Bastille va vivre les douleurs de l'accouchement toute seule, sans faire de bruit. Jean-Marie Bro a dit qu'elle n'a pas fait de bruit cette nuit-là. J'ai rien entendu de la salle de bain. Là.
Comment tu peux accoucher sans faire de bruit?
Je sais pas. Je sais pas.
OK.
Fait qu'elle a fini par accoucher d'une petite fille de 7,5 livres. Puis une fois que le bébé est sorti, elle a dit qu'elle a perdu connaissance. Puis que quand elle est revenue à elle, l'enfant était bleu puis il respirait plus. Elle dit qu'elle a frotté l'enfant, qu'elle a pris dans ses bras, mais qu'il était déjà mort-né. Elle dit qu'elle a pas appelé le 911 parce qu'elle n'avait pas la force. Mais elle a eu la force de ramasser une grosse partie des traces de l'accouchement, de mettre le cadavre du bébé dans un sac de poubelle, puis d'aller se coucher comme si rien n'était. Le lendemain matin, Marie-Ève Roy, elle se réveille. Puis là, elle se colle comme pour se mettre en cuillère avec Bastille. Puis là, elle met la main sur le ventre. Là, elle fait comme, wow! C'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Il manque un bout. Genre, il y avait un ventre. Puis là, il y en a plus. Là,
tout mou.
Qu'est-ce qu'elle répond, Bastille?
Un gros caca?
Mon bouchon de menstruation est sorti.
Pardon?
Marie-Ève Roy répond, tu me prends-tu pour une folle?
Ça n'a pas de sens. C'était ça, là.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Et là, Bastille finit par dire, j'ai fait une fausse couche.
C'est la première fois qu'elle admet que...
qu'elle était enceinte.
OK.
Fait que là, ça se bouscule dans la tête de Marie-Ève Roy. OK, là. Fait que là, elle était vraiment enceinte. Elle a menti là-dessus. Ça veut dire qu'elle m'a trompée.
Mm-hmm.
Fait que là, elle se lève pour aller faire son pipi du matin. Puis là, Bastille, elle fait comme... Elle fait pas le saut, il reste comme encore du sang dans le bain. Fait que là, Marie-Ève Roy a dit... OK, regarde, pose-toi. Je vais nettoyer la salle de bain. Puis on va discuter de tout ça après. T'sais, fait que là, Marie-Ève Roy, elle se met à nettoyer la salle de bain, le lavabo, le plancher... En ne se doutant pas qu'elle est en train de nettoyer une scène de crime. Tu sais, elle disait comme, OK, je suis en tabarnak, mais comme, elle vient de faire une fausse couche, tu sais, elle est fatiguée, comme, on va gérer comme la crise après, là. Comme.
Ben, elle se demandait pas, le bébé était où? Une fausse couche grosse de même, ouais, tu flushes pas ça dans la toilette?
Ben, c'est ça. Fait que là, elle se dirige vers la cuisine pour jeter les trucs.
Mm.
Puis là, Bastille a dit, jette-le pas dans le gros sac. En fait, elle a dit, jette-le pas dans le gros sac en dessous de l'évier, il est plein, puis il pue les légumes.
Fait que elle n'a même pas sorti le sac.
Non. Fait que là, Marie-Ève Roy, curieuse, parce qu'elle a dit, regarde pas dans le grand sac.
Elle l'a vu.
Fait qu'elle regarde dans le grand sac, mais en fait, ce qu'elle voit, c'est comme un gros sac noir, puis là, à l'intérieur, il y avait comme un autre sac blanc. Puis dans le sac blanc, elle pouvait comme voir à travers juste comme du sang puis des matières visqueuses. Fait que, tu sais, elle a juste vu ça, puis elle a comme pas... Elle a pas checké plus que ça, mais elle s'est dit, ouais, comme, ce qui est, tu sais, la fausse couche est là-dedans. Fait qu'elle a juste pris le gros sac, puis elle est allée le mettre à l'extérieur. Fait que, tu sais, elle savait
pas... Ça compte-tu pour une complicité?
Moi, je pense que non, parce que...
Non?
Moi, je la... comme je la crois qu'elle savait pas.
Ouais.
Que c'était un bébé à terme, puis, tu sais, je la crois. Parce que dans, je sais pas, dans un tueur si proche, elle parle beaucoup, là. Elle donne comme une, vraiment une grosse entrevue, puis je la crois.
OK.
Donc, ben, heureusement, justement, pour Marie-Ève Roy, les accusations de, contre elle vont tomber la veille de son procès parce qu'ils n'ont pas la preuve
qu'elle
savait, t'sais, hors de tout doute raisonnable.
Mais de toute façon, ça aurait été quoi le complot? Genre, je savais qu'elle était enceinte, puis on savait qu'on voulait tuer le bébé, genre. C'est... Ça aurait pas eu de sens.
Ben c'est plus par après, genre, ah, il y a un corps d'enfant, puis je l'ai jeté, alors que j'aurais dû appeler la police, plus ça, genre. Puis, tu sais, c'est vraiment comme aujourd'hui, tu sais, par après qu'elle voit à quel point elle était manipulatrice, ben, c'est comme, tu sais, à chaque fois qu'elle avait des doutes, tu sais, parce qu'elle en a eu des doutes, puis elle s'en est posé des questions, ben oui, là, tout ce temps-là. Mais à chaque fois, ben, c'est, elle arrivait à la madouer, à la convaincre du contraire, tu sais, alors que tous ses doutes étaient fondés. Fait que, tu sais, on a trouvé comme, tu sais, c'était pas moi la folle, là.
Genre, non, c'est raison l'autre mythomane.
Mais comme, à quel point ça joue dans la tête, tout ça, là. Donc, le 15 juillet, le lendemain de son arrestation, l'état mental de Bastille est évalué à Saint-François d'Assise et on lui diagnostique un déni de grossesse. Selon les psychologues, le déni de grossesse aurait pu faire qu'elle ressente moins les contractions, puis c'est comme plein de choses de même. Mm-hmm. Même là, moi, je suis allée voir la définition de déni de grossesse.
Donne-nous un cours.
OK. Donc, le déni de grossesse, définition, est le fait de ne pas avoir conscience d'être enceinte après le premier trimestre. La grossesse est invisible à l'œil nu et a peu ou pas de symptômes. Donc, dans les symptômes, en fait, donc une absence de nausées, de vomissements, il n'y a aucun retard dans les règles, pas de seins gonflés ni sensibles, pas de fatigue inhabituelle, pas de besoin d'uriner fréquemment, pas de mouvement de fœtus ressenti, pas de ventre qui s'arrondit, et ça jusqu'à la fin, parce que le fœtus dans les déni de grossesse, il se place comme derrière les côtes, fait que ça fait que les femmes n'ont pas nécessairement un gros ventre.
OK.
Et une absence de prise de poids.
Mais c'est genre la grossesse rêvée.
Ouais. Mais...
Mais c'est wrong, là.
Mais moi, je suis comme... Mais c'était pas ça, elle.
Non, parce qu'elle avait un bedon.
Elle avait un bedon. Elle avait des symptômes. C'était...
Elle était fatiguée, elle avait...
Mm-hmm. Elle avait mal, elle a dit. Mais bon, je suis pas psychologue ni médecin, là. Mais...
Pour toi, ça a pas de sens, ce diagnostic-là, mettons?
Non.
Après avoir lu ça, ouais.
Ben, tu sais, peut-être que jusqu'à un certain point, oui. Mais tu sais, à un moment donné, genre, l'infirmière, il a dit qu'elle était enceinte puis qu'elle allait accoucher.
Puis qu'elle était en travail. Pis...
Depuis des semaines, tout le monde lui demandait si elle était enceinte. Puis elle a fait par exprès pour pas faire pipi sur le test de grossesse parce qu'elle savait qu'elle était enceinte. Ouais. Sinon, elle aurait fait pipi dessus, tu sais.
Fait que déni de grossesse, tu t'es convaincue que t'es pas enceinte.
Ouais, puis ton corps le montre pas.
OK.
Je veux dire, ça...
Elle, ouais, dans son cas, elle,
ça
aurait...
Oui, ça existe, là, il y a, genre, en tout cas, une amie à Québec que, genre, l'année passée, elle savait pas qu'elle était enceinte. 22 ans. Puis elle avait pas pris de poids, elle avait pas de bedon, là, là. Puis elle a finalement, genre, elle s'est rendue compte quand elle accouchait chez elle, puis c'est son père qui l'a accouché avec le 911 au téléphone, genre.
Tu m'avais dit ça?
Ouais. Oh. Tu sais, elle savait, tu sais, elle avait pas de
symptômes. Ça, c'était un vrai,
ouais,
de vrai.
C'était un vrai déni de grossesse, là.
Mm-hmm.
Puis je veux dire, une fois qu'elle se rend compte qu'elle est en train d'accoucher, c'est elle appelle le 911, ce qui est la chose à faire, ce qu'elle, elle a pas fait. Fait que, tu sais, mettons, même si jusqu'à la fin, OK, déni de grossesse, mais là, t'es en train d'accoucher. Puis elle savait très bien qu'elle était en train d'accoucher. Elle est allée se cacher dans sa salle de bain parce qu'elle savait que c'est ça qui se passait, là.
Mm-hmm.
Elle, tu sais... Bon, en tout cas, moi, je...
Pourquoi elle n'a pas appelé le 911, rendu-là? Pourquoi t'as souffert?
Il y a comme tellement de fois dans l'histoire où elle aurait pu prendre une bonne décision.
Ouais.
Puis qu'elle l'a pas faite.
Mm-hmm.
Elle était juste tellement loin dans son mensonge qu'elle voulait pas sortir de ça, tu sais.
Ça n'a pas de bon sens.
Alors, l'autopsie. Donc, les résultats de l'autopsie. À la première observation, le bébé, il présentait pas de blessure. Mais après une autopsie complète, on apprend que le bébé, il était en vie à la naissance. Parce que la pathologiste, elle a réussi à prouver qu'il avait respiré pendant au moins une minute.
What?
Ouais. Puis la pathologiste, elle a aussi observé deux blessures, donc des ecchymoses, à deux endroits différents sur la tête, une en avant puis une en arrière. Puis là, ça a fait des épanchements de sang à l'intérieur du crâne, puis c'est ce qui aurait tué le bébé. Fait que ça, pour les policiers, ça veut dire une chose. Que Bastille, elle l'a tué. Parce qu'un impact, peut-être, ça aurait pu arriver, je sais pas, quand il est sorti, whatever. Mais deux, plus dur à expliquer. Fait qu'elle est accusée du meurtre. En fait, elle est accusée du meurtre non prémédité de son bébé. En attente de son procès, elle est remise en liberté. Et pour ça, son père avait dû déposer une somme de 10 000 $ en plus de souscrire à des engagements totalisant 20 000 $ Puis Bastille, elle avait, elle aussi, dû s'engager pour une somme de 5 000 $ Elle était soumise à de sévères conditions. Mais elle a quand même pu travailler pendant ce temps-là. Puis là, après quelques mois, on apprend qu'elle s'est fait prendre pour fraude envers son employeur.
Ben voyons.
Le magasin Renault Dépôt. Elle travaillait à la caisse du comptoir commercial pour la clientèle d'affaires et il manquait souvent de l'argent dans la caisse.
Mythomane jusqu'au
ouais,
bout.
Ouais. Ses employeurs, ils savaient, comme ils connaissaient ce qui se passait, puis ils s'étaient dit comment on va l'engager quand même. Donc, des accusations de fraude de moins de 5 000 $ et un bris de probation sont déposés contre elle. Donc, elle retourne en prison jusqu'à son procès. Finalement, le 24 septembre 2010, peu avant le début du procès, elle décide de plaider coupable à une accusation d'homicide involontaire. Donc, il n'y a pas eu de procès. Mais il y a eu des représentations sur la peine qui ont duré 3 jours. Fait qu'il y a comme presque eu un procès. Okay. On a quand même eu de l'information. Parce que là, il faut la juger de l'état mental de l'accusé puis de savoir si la mort du bébé était accidentelle
ou pas.
Puis là, ouais, ça va vraiment influencer la sentence parce que là, mettons, la couronne, il demandait 5 ans, puis la défense disait 0 parce qu'elle a déjà passé du temps en prison.
OK.
Puis c'est un cas vraiment spécial parce qu'il n'y a pas de jurisprudence. Il n'y a pas d'autres cas sur lesquels se baser pour la peine.
Thank God.
Ouais, une chance. Donc, pendant les représentations sur la peine, Bastille, elle maintient qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte, puis qu'elle a pris conscience qu'elle portait un enfant seulement lorsque la tête est apparue entre ses jambes.
Oh my God!
Puis après avoir constaté que le bébé ne respirait pas, elle a enroulé dans une serviette puis elle l'a déposé dans un sac. La couronne lui rappelle qu'une infirmière lui avait demandé de se rendre à l'urgence dans un hôpital quelques heures avant l'accouchement, à quoi elle répond « J'avais la confirmation médicale, mais c'était pas dans ma tête. »
Okay.
Puis, elle a ajouté que chaque jour, elle pensait à cet enfant qu'elle a surnommé Ariane et dont elle a récupéré le corps après l'autopsie puis qu'elle est allée enterrer ses cendres au cimetière. Puis, elle s'est aussi fait tatouer un A en son honneur.
Mais aussi, elle a toujours pas fait pipi sur le petit bâton, hein? Que sa blonde a aidé, le test de grossesse?
Ouais.
Elle a pas fait pipi dessus?
Non.
C'est un signe clair que tu savais, là?
Ben oui. Ouais, pour moi, oui. 100% elle savait. Ah oui, puis dans un article de TVA Nouvelle, ça dit que dans une de ses versions, elle aurait dit à un enquêteur qu'elle savait qu'elle était enceinte à partir du 5e mois.
Oh.
Oh. Donc, pendant ces 3 jours-là, on entend aussi des spécialistes qui viennent témoigner de la façon dont l'enfant est décédé. Fait que c'est vraiment important pour décider de la sentence. Il y a la pathologiste qui a pratiqué l'autopsie du poupon, la docteure Annie Sauvageau, qui conclut que sa mort n'est pas accidentelle. Elle en vient à la conclusion que le bébé était bel et bien vivant à sa naissance et elle affirme que c'est un traumatisme crânien qui a causé la mort du bébé et que c'est pas accidentel.
C'est lourd.
Tu parles des deux blessures avant-arrière. Il y a un autre spécialiste qui supporte la thèse de la couronne, qui est le gynécologue François Baudouin de l'hôpital Sainte-Justine, qui explique que la grossesse avait été menée à terme, soit à 39 semaines. Et que l'enfant pesait 3,4 kg, un poids tout à fait normal. Puis il dit aussi que Bastille, contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'avait pas pu perdre connaissance à la naissance parce que normalement, les femmes, à l'accouchement, sécrètent des endorphines qui leur permettent de supporter la douleur.
OK.
Et puis, en se fiant sur les résultats de l'autopsie, il conclut que l'enfant est mort des coups portés à sa tête. Par contre, il y a un autre gynécologue, Gaétan Paris, du CHUL, qui vient témoigner, puis lui, il contredit ça. Il dit que Basté souffrait d'un cas extrême de déni de grossesse, puis il est d'avis que le bébé naissant a pu mourir d'asphyxie. T'sais, il dit que l'enfant n'a pas été stimulé à naissance, donc il est tombé en apnée secondaire et qu'il est mort d'un manque d'oxygénation. Il explique que le cordon ombilical était plus long que la normale, ce qui augmente habituellement le risque qu'un enfant meure à la naissance. Voilà, okay. Fait qu'on a une autre hypothèse.
Mais les deux théories sont quand même bonnes, sont plausibles. Laquelle passe?
Donc, le juge Claude Gagnon retient le diagnostic de déni de grossesse.
Ah ouais?
Et il retient la moins pire des deux thèses pour la mort du poupon, soit celle de la négligence. Donc, il rejette la théorie que l'enfant avait été victime d'un acte de violence délibéré.
OK.
Le juge reconnaît que l'enfant était viable et vivant, mais il souligne que c'est pas une preuve hors de tout doute raisonnable que le geste était volontaire.
Je comprends.
Donc, pour la sentence, il coupe la part en deux. On demandait 0 et 5. Donc, il condamne Marie Bastille à 3 ans de prison. Il retient plusieurs facteurs atténuants pour sa décision, dont les remords de l'accusé, son plaidoyer de culpabilité et que le risque de récidive est pratiquement inexistant, ce qui est quand même vrai. mais il a aussi considéré des facteurs aggravants, le fait que, par son comportement négligent, l'accusé a causé la mort d'un nouveau-né, soit l'être sans doute le plus vulnérable de la société. Et plutôt que d'assumer sa responsabilité, Marie-Ève Bastille a tenté, dans les jours qui ont suivi le tragique événement, de brouiller les pistes et d'aiguiller les policiers dans de mauvaises directions pour camoufler sa faute.
Tu sais, il y a quand même du criminel là-dedans, là.
Ben oui.
Même si le bébé n'est pas mort volontairement.
Elle a quand même voulu le cacher tout de suite, tu sais. Mais là, en déduisant la période de détention préventive de plus de 8 mois, qui est comptabilisée en double, ben là, il restait juste 19 mois de prison à purger, donc moins de 2 ans. Fait qu'elle a été envoyée à la prison des femmes de Québec plutôt que dans un pénitencier fédéral qui est pour les peines de 2 ans et plus. Et elle a été libérée beaucoup plus tôt. Veux-tu deviner combien de mois?
9.
4.
4?
Ça fait 4 mois. Voilà.
4?
Ouais.
Fait qu'au total, elle a fait 12 mois.
Ouais.
OK.
Ouais, c'est vraiment pas... Elle s'en est vraiment, vraiment bien tirée, là.
Oui.
Mais les premiers 60 jours qu'elle est libérée, elle doit habiter chez ses parents 24 heures sur 24, tout en poursuivant sa thérapie avec un psychologue. Fait que c'est comme prison à domicile, finalement, pour un autre 3 mois.
T'es chez maman puis papa.
2 mois.
Ouais. T'es bien?
Ouais. Dormir mieux qu'en prison. Bon, puis elle a d'autres conditions aussi. Pas de drogue, pas d'alcool. Mm. Puis dans sa décision, la commission soutient que la femme ne représente pas un danger élevé pour la société. Bon, j'avoue que...
Non.
Effectivement.
Mm-hmm.
Ah oui, dans TVA Nouvelles, j'ai vu qu'une agente correctionnelle du Centre de détention de Québec a été suspendue pour avoir noué des liens inappropriés avec Marie Bastille.
Non.
Oh. Cette agente a été coupée d'une suspension de 10 jours sans salaire. J'ai pas vu d'autres détails là-dessus. Mais bref, c'est fait une blonde en prison, je pense. Voilà.
Ça a pas de bon
sens. C'était l'histoire de Marie-Ève Bastille qui est... C'est ça. Tellement, tu sais, tellement de moments dans l'histoire où elle aurait pu juste assumer ce qui se passait. Elle aurait pu se faire avorter. Elle aurait pu décider d'avoir l'enfant, elle qui aimait les enfants. Sa blonde, elle aurait été sûrement contente d'avoir un enfant avec elle. Tu sais, genre...
Ah, il y a tellement de choses qu'elle aurait pu faire.
Tellement de choses, c'est ça.
Puis le pire, c'est que sa blonde, elle serait probablement restée avec elle. Genre, hey, je suis désolée, je t'ai trompée, je suis enceinte d'un dude.
Ouais.
Avec qui je t'ai trompée, mais on peut
ben oui, pour
passer par-dessus puis élever l'enfant.
Ouais. Genre, ce que j'ai vu de sa blonde, je suis sûre qu'elle l'aurait supportée puis elle l'aurait aidée. Oui. Genre, elle avait l'air vraiment, vraiment fine.
Une chance que t'as donné un avertissement au début parce que c'est vraiment pas facile à écouter.
Non, vraiment pas. Ouais, au début, quand quelqu'un... J'ai pas noté, mais je sais que plusieurs personnes nous l'avaient suggéré, cette histoire-là. Puis quand j'avais vu que c'était une affaire de nouveau-né mort, j'étais là, oh, bouf, non.
On va attendre que les nôtres soient plus vieux.
Ouais. Mais là, je pense que j'étais tombée sur un tueur si proche, puis j'étais là, OK, l'histoire a pas de bon sens. Oh, là, ça m'a donné envie de la raconter. Parce que...
C'est une très bonne histoire.
Ouais,
c'est...
L'histoire de mythomane.
Je comprends que ça vienne te chercher. Oh my God. Hélène.
Voilà.
Hélène et ses histoires de... d'enfants morts.
Mm. Voilà.
Merci beaucoup de nous avoir raconté ça, Hélène.
Ça fait plaisir.
C'est de passer une belle journée.
Alors, merci
beaucoup. Très bon 100e épisode. Merci encore à tout le monde qui nous écoute puis qui nous écrit tout le temps.
Juste... Oui, continuez à nous écrire. Ça nous fait tellement du bien.
Oui,
oui.
Tout le temps. Et on se voit dans 2 semaines.
Oui, à la bine prochaine.
Bye.
Bye. Crime de Bine est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binkou! Bye!